VOA Afrique, les infos à Washington.
Irene Herman-Rungbo, ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. Après trois reports, les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales ont bel et bien eu lieu en RDC hier. L'opposition dénonce des irrégularités et des problèmes logistiques, mais la CENI minimise les incidents. De Kinshasa, la correspondance de notre envoyé spécial Abdourahmane Dia.
Pour certains électeurs de Kinshasa, la journée a été longue. C'est le cas pour ces deux jeunes que nous avons trouvés au centre Maman Diankéba de Limété aux environs de 15 heures. Dans certains bureaux, le vote venait à peine de commencer.
On attend jusque-là, il y a toujours beaucoup de gens. Comme on est là depuis le matin, les machines sont arrivées un peu en retard, jusque vers 11 heures, il n'y avait pas toujours de machines. En arrivant, j'ai vu des gens qui ont dit qu'ils s'étaient fait enrôler ici, et puis après, ils n'ont pas vu leur nom. Ils se sont découragés, ils sont rentrés à la maison directement.
C'est déplorable, hein. Ça me fait mal énormément. Écoutez, je suis venu à 6 heures, il n'y a pas de machine, je suis resté sous soleil depuis le matin, même pas manger, vous comprenez. Et enfin, on m'a dit qu'il n'y a pas de machine, je n'ai pas le droit d'y voter, ça fait mal.
Ce n'est pas le cas de Patience qui a voté assez facilement dans son centre situé dans la Gombe.
Le vote était très bien et donc rapide. Je crois que ça m'a pris 30 secondes, un truc comme ça, tellement que je connaissais déjà mes choix. Et donc voilà, je suis fier d'avoir voté utile.
Pendant que le dépouillement était en cours dans plusieurs centres, l'opposant Martin Fayoulou faisait une déclaration tard dans la soirée pour dénoncer ce qu'il appelle des dysfonctionnements dans le déroulement du scrutin.
À l'issue du monitoring que la centrale électorale de la Mouka a réalisé ou est en train de réaliser, il appelle que de nombreuses et graves irrégularités qui ont été constatées dans les déroulements des opérations des votes laisse pour le moins une idée d'un désordre électoral programmé par la CENI, complètement à la solde du pouvoir en place en vue de voler au peuple congolais sa souveraineté.
Et pour le chef de la mission d'observation électorale, Simo Sel, qui a déployé environ 20 000 personnes sur le terrain, l'essentiel est de trouver des solutions aux problèmes soulevés par les électeurs.
Tout va dépendre de ce que l'on va faire de ces incidents. Je crois que le vote est exprimé par la population, par les électeurs. Il est très important que la CENI puisse préserver ce vote-là. Les incidents peuvent avoir lieu, mais le tout, c'est de pouvoir quand même assurer le bon aboutissement du processus électoral. On peut rencontrer des incidents et pouvoir les surmonter par des mesures appropriées qu'on peut prendre pour faire face à toute situation.
La CENI estime que les problèmes ont touché moins d'1% des machines et se dit donc globalement satisfaite. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
La longue attente des résultats et des premières tendances va tenir en haleine cette semaine la République démocratique du Congo après ce scrutin censé désigner le successeur du président Joseph Kabila. Les résultats provisoires ne doivent être proclamés que samedi prochain d'après la commission électorale. Le compte à rebours a donc commencé avec le comptage manuel des voix. Objet de toutes les polémiques depuis plus d'un an, la machine à voter a connu de nombreux couacs dimanche. Pour l'organisation du scrutin, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies, présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Notre confrère Danny Kenda à Matadi nous fait dire que le scrutin s'est bien déroulé. On l'écoute.
Oui, Matadi, c'est 365 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. La journée s'est déroulée très très bien. Dès 6 heures du matin, le bureau de vote était ouvert et le Matadien se sont rendus très tôt matin dans leur bureau pour essayer un peu d'accomplir leur devoir civique. Ah oui, à l'heure qu'il est, c'est le dépouillement, il y a le président du bureau et les agents électoraux. ainsi que les observateurs qui sont là et les témoins des partis politiques. Nous assistons tous les journalistes au dépouillement de nombre de bulletins. Nous avons déjà terminé pour le présidentiel et maintenant nous sommes pour la députation nationale, donc on a, provinciale, pardon, et après la députation provinciale viendra le tour de la députation nationale.
Le comptage manuel des voix se poursuit dans les bureaux de vote du pays qui attend les résultats de l'élection présidentielle avec des risques de contestation dans la course à la succession du président Joseph Kabila. Le dépouillement et l'affichage des premiers résultats sont en cours dans des centres à Goma, Kisangani et Kinshasa. En Tunisie, 45 migrants clandestins ont été secourus par les gardes-côtes au large de l'île de Kekerna, a indiqué dimanche la garde nationale tunisienne qui n'a pas fait état de victime. Les personnes secourues, pour la plupart des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, sont en bonne santé, a indiqué le porte-parole de la garde nationale tunisienne, mentionnant la présence de deux femmes enceintes à bord. La justice égyptienne a transformé dimanche en peine ferme les 2 ans de prison avec sursis auxquels avait été condamnée une militante pour la défense des droits humains connue pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel en Égypte. Amal Fati, 34 ans, avait été arrêtée en mai après avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle avait critiqué le manque d'action des autorités face au harcèlement sexuel que subissent les Égyptiennes. Une cour d'appel a confirmé hier la peine, retirant cette fois le bénéfice du sursis, a déclaré son avocat Ramadan Mohamed. Madame Fati a également été condamnée à payer une amende de 10 000 livres égyptiennes, soit 490 euros. Des combats meurtriers entre Arabes venus de la Libye et orpailleurs ont eu lieu entre jeudi et samedi à l'extrême nord du Tchad, dans la zone aurifère de Kouribougidi. Aucun bilan humain n'a été donné de sources sécuritaires, mais la Convention tchadienne des droits de l'homme parle de plus de 30 morts et de plus de 200 blessés parmi les orpailleurs. Une source militaire a confirmé la tenue de combats jeudi dans cette localité excentrée du pays frontalier, frontalière avec la Libye. D'autres combats ont eu lieu vendredi et samedi dans la localité aurifère, selon des sources proches des Wadaïa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité hors du continent, les ministres de l'Intérieur britanniques et français se sont mis d'accord dimanche pour accroître la collaboration bilatérale face aux tentatives de traversée de la Manche par des migrants à bord de petites embarcations qui se sont multipliées ces dernières semaines. Ce plan consiste à un accroissement du nombre de patrouilles de surveillance, des actions pour démanteler les gangs de trafiquants et la sensibilisation des migrants aux dangers que représente la traversée de la Manche. Ces mesures seront déployés par le Centre de coordination et d'information franco-britannique situé à Coquel, près de Calais, dans la région nord de la France. Pendant ce temps, la marine maltaise a annoncé hier soir avoir secouru 69 migrants à bord d'une barque en bois, tandis que 49 autres récupérés ces derniers jours par les ONG allemandes, Sea-Watch et Sea-Eye, attendaient toujours un port pour débarquer. Les migrants secourus dimanche ont appelé à l'aide alors qu'ils étaient en perdition sur une barque en bois à 117 miles nautiques au sud-ouest de Malte. Un navire maltais a été envoyé à leur secours et les a conduits à Malte dans la soirée, a expliqué la marine dans un communiqué sans plus de précision. Venu du privé et peu connu du grand public, le numéro 2 du ministère américain de la Défense, Patrick Shanahan, va prendre mardi le premier rôle à un moment où l'appareil militaire des États-Unis entre dans une phase délicate. À 56 ans, il est propulsé ministre de la Défense par intérim après la démission fracassante de Jim Mattis le 20 décembre en raison de profonds désaccords avec le président Donald Trump, notamment sur le retrait des troupes américaines de Syrie. Le général qui incarnait une forme de stabilité dans une administration traversée de secousses avait dit qu'il partirait fin février pour permettre une transition fluide avec son successeur. Donald Trump, apparemment vexé par la couverture médiatique de cette démission, a décidé d'avancer le calendrier au 1er janvier et de nommer Patrick Shanahan dans un simple tweet. Il sera fantastique. Il revient désormais à cet homme au ton posé et attentif aux détails de gérer les retraits des 2000 soldats américains déployés en Syrie. Madame, monsieur, ce sera tout pour ce bulletin d'information retrouvé dans 24 minutes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Bonne suite de programme sur VOA Afrique et bon réveillon à toutes et à tous. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.